France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une possible troisième voie pour une troisième vague. L'exécutif doit annoncer ce soir à 18h de nouvelles restrictions pour freiner l'épidémie de Covid en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Confinement le week-end, confinement total ou nouvelles mesures hybrides. Les pistes possibles après les autres titres, Agnès.
Le casse-tête des profs de sport privés de gymnase depuis 2 mois, l'Islande qui ouvre ses portes aux touristes vaccinés, la Russie et la Chine dans le viseur de la diplomatie américaine, peut-être de nouveaux OGM bientôt dans nos assiettes, le Sénat auditionne aujourd'hui, et puis attention à tirer la bonne carte, Microbius, débarrassez-vous des virus, un jeu de cartes pour se jouer du Covid.
Invité d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
La stratégie d'Emmanuel Macron adoptée il y a 6 semaines, une semaine de confinement est une semaine de gagner, était-elle la bonne alors que l'épidémie repart très fortement? On pose la question au leader de droite, président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, le grand entretien de la matinale sur la Syrie, 10 ans après le début de la guerre. Jean-Pierre Filiu et le médecin humanitaire Raphaël Pitti seront nos invités. Le standard vous attend, il est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Rien n'est encore acté. L'exécutif se donne le temps de la réflexion jusqu'à ce soir 18h. En collant au plus près de la situation en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, 18 millions de Français concernés, un quart de la population française. Le chef de l'État s'est rendu hier dans le service de réanimation de l'hôpital de Poissy, dans les Yvelines, pour discuter avec des soignants. Dans la soirée, il s'est entretenu en visio avec une dizaine d'élus locaux. Et ce qui ressort ce matin, Julie-Marie Lecomte, c'est la volonté du chef de l'État de trouver d'autres solutions pour freiner l'épidémie.
Emmanuel Macron l'a dit tout net au maire d'Île-de-France avec lesquels il a échangé hier soir. En région parisienne, le confinement le week-end est une mesure compliquée à prendre. Les élus ont mis en avant la vie des franciliens, les trajets en métro, en RER, les bouchons, le stress, les horaires de travail, les retours tard le soir à la maison. On ne peut pas les reconfiner du vendredi soir au dimanche soir. Là, c'est une vie impossible, a convenu le président de la République. Alors Emmanuel Macron réfléchit encore. Oui, il faut des mesures de freinage et des mesures fortes, mais il faut une réponse plus fine. Des mesures qui, dit-il, auront un autre visage que celles qu'on a connues. Emmanuel Macron ne veut pas enfermer les habitants d'Île-de-France. Il veut leur permettre de retrouver un plus grand air, de souffler. Il cherche un modèle hybride, confirme plusieurs participants, en esquissant une recette. Plus de télétravail, par exemple, la semaine, moins de brassage en intérieur, mais de l'oxygénation le week-end.
Un confinement le week-end, donc, confinement total, mesures hybrides inédites. Jean Castex et Olivier Véran annonceront ce soir à 18h les solutions finalement choisies, dans un contexte toujours tendu, avec plus de 38 000 contaminations au cours des dernières 24 heures, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis novembre dernier. 4 219 malades en réanimation, dont un quart en Île-de-France. Et quid des écoles, des collèges et des lycées? La question est centrale. Le gouvernement a jusqu'ici tenu à laisser les écoles ouvertes pour le bien-être des élèves qui souffrent déjà de certaines restrictions. Depuis la fermeture des gymnases il y a 2 mois, les cours de PS sont ainsi très perturbés, supprimés même dans certains établissements, en demi-groupe dans d'autres, et parfois les cours ont lieu à l'intérieur d'une salle de classe. Le SNEP FSU, syndicat des enseignants, organisait hier un rassemblement devant la direction académique de Bobigny. Agera Mohamed y était.
Depuis 2 mois, ces profs de PS ont beau s'adapter à ce nouveau protocole, ce n'est pas facile tous les jours, rappelle Jonathan Alves, enseignant dans un collège à Montreuil et représentant du SNEP FSU en Seine-Saint-Denis.
Classiquement, ce qui nous revient beaucoup, c'est 3-4 collèges qui se retrouvent sur le même stade municipal, en plus avec quelques lycées, puis des écoles primaires qui arrivent. On se partage des petits bouts de stade, de terrain, à des dizaines de classes et des centaines d'élèves.
Et quand la pluie, le vent et même la neige, comme le mois dernier, s'invitent, là il faut se rabattre en salle pour un cours de PS, oui, mais théorique, un non-sens selon Clara, prof au Lila.
Personne vise quand il vient en EPS à faire un cours assis, sortez les stylos, regardez la vidéo et répondez au QCM, quoi.
C'est tout simplement démoralisant pour Amandine.
Moi qui viens d'entrer dans le métier, j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir fait de l'EPS cette année. Je fais plus de l'animation que vraiment des contenus, apprendre des choses aux élèves.
Et surtout, cette enseignante s'inquiète pour certains élèves.
Bah, on le voit, oui, dans les comportements, on a des élèves qui explosent littéralement parce qu'ils ont énormément besoin de se défouler. Ils ont déjà pas une EPS qui est normale et en plus de tout ce qui est club, etc., qui est fermé à l'extérieur, ils ont zéro moyen d'évacuer.
Et si on reconfine, ce sera pire, dit-elle, d'où l'urgence à rouvrir les gymnases et les équipements sportifs, au moins pour les cours d'EPS.
Reportage d'Agira Mohamed de France Bleu Paris. Très attendu aujourd'hui également l'avis de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin AstraZeneca, suspendu depuis lundi en France et dans une quinzaine de pays. Un passeport vaccinal, c'est le choix de l'Islande qui, à partir d'aujourd'hui, laisse entrer tous les voyageurs présentant donc un certificat de vaccination. Mais attention, seuls les certificats délivrés par les pays de Schengen ou les carnets jaunes de l'Organisation mondiale de la santé sont valides. Reportage à Reykjavik de Jérémy Richard.
Avec seulement deux établissements ouverts sur 8 et un taux d'occupation inférieur à 10%, Mélissa Mingia, directrice d'hébergement de Center Hotels, deuxième plus grosse chaîne d'Islande, peut enfin retrouver le sourire.
C'est un ticket vers l'avenir, c'est la lumière au bout du tunnel que l'on voit venir. C'est vraiment une très bonne nouvelle.
Seuls les certificats de vaccination délivrés par des pays de Schengen ou les carnets jaunes de l'Organisation mondiale de la santé sont valides et donc seulement avec les 4 vaccins approuvés jusqu'ici. Un pas en avant capital pour Sigridur Kuzmisdottir de l'agence gouvernementale de promotion du pays.
C'est très important que nous puissions également accueillir des personnes venant par exemple du Royaume-Uni et des États-Unis, qui sont deux marchés clés pour le tourisme en Islande.
Pas de boom touristique attendu dès aujourd'hui. Pour autant, Skarphéðinn Steinarsson est directeur général de l'Office du tourisme islandais.
Les voyages sont planifiés à l'avance. On ne s'attend donc pas à ce que cela ait des effets immédiats. Mais si nous pouvions voir une amélioration dès le mois de mai ou le mois de juin, cela aiderait sans aucun doute.
Depuis un mois, environ 20% des voyageurs arrivant en Islande ont présenté soit un certificat de vaccination, soit un certificat d'infection antérieur au Covid-19, également accepté. À Reykjavik, Jérémy Richard pour France Inter.
Quant au certificat présenté hier par l'Union européenne, il doit à présent être discuté par les 27 de l'Union européenne. La Grèce y est favorable, d'autres pays sont plus réticents.
Il est 7h07, la diplomatie américaine version Biden, sans langue de bois.
Les propos du président américain qualifiant son homologue russe de tueur ont provoqué de réelles tensions avec Moscou, qui a aussitôt rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Et c'est avec le même langage de fermeté que les Américains ont prévu de s'adresser aux Chinois tout à l'heure lors d'un premier sommet organisé en Alaska. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Sur le plan international, Joe Biden avait promis que l'Amérique serait de retour. America is back. Elle l'est en tout cas vis-à-vis du Kremlin. Là où Donald Trump semblait particulièrement conciliant avec Vladimir Poutine, Joe Biden ne mâche pas ses mots. Poutine est un tueur. Allusion à peine voilée à la tentative d'empoisonnement de l'opposant Navalny. Il a encore une fois en 2020, dit Biden, tenté d'interférer dans la présidentielle américaine et il devra répondre de ses actes. Enfin, Washington pointe du doigt la responsabilité des Russes dans la gigantesque cyberattaque qui, en fin d'année dernière, avait visé des installations américaines. Le ton devrait également être particulièrement ferme à l'égard de Pékin. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, qui tout à l'heure à Anchorage doit rencontrer son homologue chinois, a prévu de dire son inquiétude quant à la situation des Ouïghours dans la région du Xinjiang. Sur la table également, les menaces sur la démocratie à Hong Kong ou sur la libre circulation dans le détroit de Taïwan. Au menu évidemment aussi la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Là, l'équipe Biden est sur la même ligne que l'administration précédente. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Washington-Pékin, une première rencontre et de nombreux sujets de friction, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. C'est un débat qui monte. Faut-il autoriser ou au contraire interdire les plantes, céréales ou légumes issus de nouvelles pratiques de modification génétique, appelées souvent nouveaux OGM? Un soja plus résistant, des tomates plus sucrées, des champignons qui ne noircissent plus quand on les coupe? Ces nouvelles variétés existent. Le sujet sera discuté aujourd'hui au Sénat. Célia Kiré.
Ces nouveaux OGM sont obtenus en modifiant un gène déjà présent dans la plante, comme le colza, alors que les OGM anciens modèles sont conçus en ajoutant un gène extérieur. La nuance est importante pour leurs défenseurs, comme Georges Fraissinet de l'Association française des biotechnologies du végétal. Pour lui, la France doit les autoriser car ils permettent d'améliorer le rendement, la résistance des plantes et la recherche va vite.
Au lieu de mettre 10 ans pour sélectionner une nouvelle variété, vous allez en mettre plus que 6 ou 7. Il y a quelque temps, on s'est inquiété par rapport à un virus qui atteignait les tomates. Il faut voir comment on va pouvoir trouver des résistances. Et si on y arrive en 7 ans, eh ben c'est mieux qu'en 10 ans.
Mais en face, certaines ONG demandent au ministre de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Suzanne Dahl de Greenpeace estime que cela peut concerner beaucoup de produits.
On a eu des exemples aux États-Unis avec par exemple le développement de vaches sans cornes. En France, on voit apparaître du colza qui est rendu résistant à des herbicides. Potentiellement, le consommateur peut se retrouver avec des nouveaux OGM dans son assiette sans le savoir.
En 2018, la Cour de justice de l'Union européenne avait coupé court au débat en disant clairement que ces nouveaux OGM devaient être interdits. Mais la France n'a toujours pas publié de décret pour les encadrer. Le gouvernement attend fin avril un nouveau rapport de la Commission européenne.
Et il est à présent question de chênes centenaires et de sapins de plus de 50 ans qui faisaient le bonheur des habitants de l'Ariège et des randonneurs. Mais à Perles-les-Castanets, près d'Ax-les-Thermes, plusieurs parcelles de bois ont été coupées sans autorisation. 300 arbres ont disparu. Les propriétaires soupçonnent une entreprise espagnole d'avoir procédé à ce pillage. Des plaintes ont été déposées. Un massacre à la tronçonneuse dont ne se remet pas Christophe Segato, ariégeois et amoureux de la nature.
C'est dur. Moi, ça fait 30 ans que j'aime cette forêt. C'est un désastre. Il y a de la pollution, c'est dévasté, il y a des ornières, des mares d'huile, d'engins hydrauliques. C'est noir, c'était beau. 30 ans de souvenirs, ma famille et moi. Des souvenirs qui ont disparu et on est devant ce saccage. Quand j'arrivais juste à l'endroit où je me trouve, à chaque fois que je venais à ma femme, je lui disais « Regarde les arbres !» Parce que là, on commençait à les voir. C'était des arbres de plus de 30 mètres, d'une verdure magnifique. Ils étaient imposants, ils étaient incroyables. Et donc, on avait cette sensation, on se sentait petit face à cette nature. Et c'était un émerveillement en rentrant, en étant là où je me trouve maintenant. Et vous voyez, ça a bien changé. Maintenant, on a le soleil dans les yeux, en effet. D'un coup, comme ça, c'est un choc. On n'arrive pas à réaliser encore.
Un témoignage recueilli par nos confrères de France Bleu Occitanie. Enfin, faire du Covid un jeu, c'est l'idée de deux trentenaires qui viennent de créer Microbius, débarrassez-vous des virus. Il s'agit d'un jeu de 54 cartes illustrées. Et on y retrouve les cartes Joker vaccins, les bons et les mauvais, et la carte hydroxychloroquine, jouée pour dédramatiser Marie-Hélène Héroir.
Tout commence un week-end où le couple est cas contact. Après avoir joué aux cartes tout l'été en inventant des règles, Calypso et Xavier créent leur propre jeu. Le concept est simple.
Si vous n'avez plus de cartes, vous avez gagné un match.
C'est ensuite que ça se corse. Il y a les cartes.
Alors, c'est 54 cartes avec des virus de différentes tailles. On a les petits, moyens et gros. Après, on a trois jokers. On a les bons vaccins et les mauvais vaccins. Et la carte hydroxychloroquine, c'était un clin d'œil au professeur Out.
Et les pouvoirs spéciaux.
Bise, c'est échange d'un virus. Donc, on peut échanger une carte contre un de ses adversaires. Mon préféré, c'est mélange de microbes avec rentrée des classes.
Et vous vous êtes pas dit, on parle assez du Covid, on va pas en plus y jouer.
Si, c'est poser la question de est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Déjà, on était baigné Covid matin, midi, soir, donc on avait un peu que ça en tête. Et puis, ça collait très bien avec la thématique du jeu, la mécanique du jeu, qui est finalement de se débarrasser de ses points et donc de se débarrasser de ses virus de façon assez sympa, assez rigolote.
Pari réussi pour les deux inventeurs de Clichy. Sur les 2000 jeux fabriqués, près de la moitié a déjà été vendu.
Et le jeu est effectivement en vente sur Internet, son prix 15 euros.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes sur Ikea, 8 ans après le procès d'un flicage généraliste.